Vous aviez dénoncé l'échec du régime de Soins, causé par l'improvisation, la méfiance et la concentration de tous les pouvoirs au niveau du président de Soins. Et pourtant, vous aviez été dignitaire de ce régime de Soins, parce que, ayant appartenu au Bloc politique national, organe de conception des programmes de développement de notre pays. Vous ne sentez pas à ce titre un peu responsable moral de cet échec?
Effectivement, j'ai répondu à la question que vous aviez posée à cette époque-là. Vous avez dit que vous avez échoué. J'ai dit oui, nous avons échoué. Mais je n'ai pas voulu développer ma conception de l'échec. Pourquoi? Parce que je comprenais très bien que le peuple critiquait le régime et que nous n'avons aucune raison de nier qu'il y avait des critiques justifiées. Et nous-mêmes, nous nous livrions à ces critiques. Parce que tout régime qui dure, même le vôtre, après 26 ans, vous accepterez des critiques. Je me sens, vous me dites, c'est un peu responsable. Je me sens responsable, puisque j'étais partie prenante dans les décisions. Mais la manière dont elles étaient prises, vous le savez tous, il y avait des CRL, il y avait beaucoup de rassemblements, et les décisions étaient ainsi prises. Ce n'est pas pour le critiquer que je vais le dire, mais c'est la vérité. Maintenant, je dois dire quelque chose en plus. Il n'y a pas de régime au monde qui ne soit pas critiqué. Il n'en existe aucun. Mais on sera toujours en train d'admirer l'autre régime. Les Guinéens ont la Côte d'Ivoire comme mirage, ou le Sénégal, ou d'autres pays. Quand vous allez aussi en Côte d'Ivoire, on vous dira que la Guinée, ce sont des dirigeants courageux. On dira beaucoup de bien. Nous, même si les gens sont contre vous, et vous le diront. Maintenant, sur le plan économique, l'échec était inévitable. Non seulement qu'il y avait des improvisations, mais il y avait des facteurs, il y avait des causes que personne ne pourra maîtriser. Même le régime actuel ne pourra pas maîtriser. Il y a d'abord la crise mondiale qui nous met en état de faiblesse, surtout nous, les pays non développés. En état de faiblesse devant les pays développés qui continuent à nous exploiter. La détérioration des termes de l'échange, par exemple, figurez-vous même après la guerre, ce que 1 kilo de riz pouvait rapporter comme mètre de percale ou mètre de croton pour le paysan. Mais actuellement, ça ne fait même pas le dixième. Vous avez la sécheresse qui est tombée sur nous depuis bientôt, depuis 1973. Le paysan vous dira tous les jours. Ah, je n'ai pas eu de riz parce que il y a eu la sécheresse. Ou on dira, pour les villages qui se trouvent au bord des fleuves, on dira qu'il y a eu l'inondation parce qu'avec la déforestation, le sable s'est répandu et quand l'eau vient stagner, ben, le riz est pourri. On n'a qu'à prendre les statistiques de n'importe quel pays de cette zone-là, vous verrez que la production ne fait que dégringoler. Lorsqu'on prend les autres facteurs, le prix du pétrole, que nous ne contrôlons pas, qui fait que le gouvernement n'est pas en mesure de commander les quantités d'engrais qu'il faut pour donner aux paysans ou aux planteurs. Parce que le prix du pétrole a été multiplié par 3, par 4, par 5, par 6. Puisque les engrais chimiques sont à base d'hydrocarbures, de pétrole, donc les prix de l'engrais ont augmenté. Les paysans ont quitté, les planteurs ont abandonné leurs plantations, ils sont tous partis. On n'importe plus, on n'exporte plus de bananes. On n'exporte que peu d'ananas. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir de l'argent pour acquérir de nouveaux équipements et développer le pays? Tous ces facteurs nous échappent. La crise mondiale nous échappe. On n'a aucun moyen pour y parer. La sécheresse nous échappe. On n'a aucun moyen pour y parer. La détonation des thèmes, les gens vous échappent. Parce que c'est eux qui fixent les prix à l'extérieur, ce n'est pas nous. Alors, monsieur, voilà ce que j'avais à répondre sur ce plan, en vous disant que je ne dis pas que ce n'est pas une part de responsabilité, puisque nous aurons pu peut-être démissionner. Non, pas fait. Mais pourquoi? Vous le savez vous-même, puisque vous êtes fonctionnaire de ce pays, et nous le disons entre nous. Nous nous connaissons. Qui aurait pu démissionner à cette époque-là? Personne. Et puisque je ne veux pas abuser de votre temps, je préfère m'arrêter. Mais la liste serait longue des facteurs et des causes qui nous échappent.
D'accord.
Et les effets aussi que nous déplorons.
À une époque, vous aviez été président de la commission d'enquête.
Oui.
Vous aviez dirigé les interrogatoires.
Oui.
Quelle était votre méthode de travail? De l'information jusqu'à la décision finale.
Vous savez, j'étais ministre de l'Intérieur. Mais vous savez aussi que le chef de l'État n'a jamais fait confiance au ministère de l'Intérieur. Et chaque fois qu'il tenait une conférence, vous le savez, qu'en fait de recherche, les comploteurs, comme on dit, ils disaient bien, ce n'est pas la police qui va découvrir les comploteurs. Quand le chercheur d'aiguille a le pied posé sur l'aiguille, on ne retrouvera jamais l'aiguille. Donc lorsque on se réunissait, et lorsqu'on était désigné, on avait peur d'avoir été désigné. Puisque l'enquête était faite doublement. Quand vous réunissez, vous subdivisez en commission. Et en commission, selon le nombre des accusés, ben, on disait telle commission à telle, telle commission à telle, telle commission à telle. Quelquefois, le chef de l'État, il téléphone aux inculpés et il dit que personne ne doit être autour. Il cause avec l'inculpé. Et puis, quand vous venez, l'inculpé ne vous dira rien. Ou il envoie une lettre cachetée. Que personne ne doit dire qu'on remet à l'inculpé. L'inculpé prend la lettre, la lit, fait une réponse, la remet quelquefois au porteur qui peut être un gendarme de la présidence, et c'est à partir de là, la plupart du temps, qu'on nous dit ah, attention. Après, on dit, elle a avoué, j'ai des documents, mais on ne sait pas comment il les a eu. Mais nous interrogeons les inculpés. On leur posait la question. Et lorsque le débat était assez approfondi, pour ceux qui me concernent, je dis, donnez un papier à l'inculpé, allez dans votre cellule et dites-nous ce qui s'est passé. Voilà, en ce qui me concerne, comment je pratique. Et quand je revenais, il y a certains qui écrivaient, d'autres n'écrivaient pas. Ou écrivaient peu. Nous posons des questions, on peut faire plusieurs heures de débat, et après, on leur disait encore de retourner dans leur cellule et de nous dire vraiment la responsabilité. Il y a beaucoup qui nous ont fait confiance, qui ont écrit. Ou qui ont fait confiance au chef de l'État, qui ont écrit. Et c'est avec la somme de ces informations que nous disons à l'intéressé de faire une déclaration unique. Et cette déclaration était déposée à l'officier chargé, évidemment, du Cambaro, qui portait ça au chef de l'État.
Donc voilà. La vôtre, ça n'y est pas eu de torture.
peut-être, mais jamais au niveau de la section, au niveau des séances que je présidais.
Pendant que vous dirigez la commission d'enquête, il n'y a pas eu de décès là-bas?
Je ne sais pas, je vous assure que je n'ai jamais mis pied au Cambaro que lorsque j'ai été arrêté. Je veux dire, à la, au lieu de détention. Au bloc, vous pouvez interroger tous les gendarmes. Je n'ai jamais mis pied là-bas.
S'il vous plaît, que savez-vous de l'assassinat de la sentinelle à la présidence?
Vraiment, j'ai appris vaguement cette nouvelle. Je ne l'ai même pas vérifiée.
Vous ne vous êtes jamais posé la question sur cette affaire?
Je vous jure.
Est-ce que vous avez un compte bancaire à l'extérieur?
Jamais. Depuis l'indépendance, jamais.
Parce que c'est une liste de personnalités que nous avons devant nous ici. Et sur cette liste, votre nom figure avec une adresse d'une banque donnée. Et faites-nous confiance, ce n'est pas la Commission nationale d'enquête ni le comité militaire de redressement national qui s'est fabriqué cette liste. Mais cette liste, nous l'avons héritée du président Devin. Nous l'avons trouvée parmi ses documents les plus intimes. Elle n'a pas été fournie par un Guinéen, mais c'est parmi un de ses amis étrangers, un informateur à lui. Cette liste fait état de vous à une banque qui se situe en Hollande. Vous dites que vous n'avez pas de compte là-bas.
Non, je vous l'ai dit ici, j'ai été grand conseiller de la UEFA Dakar, vice-président du grand conseil. Mes indemnités étaient virées. À partir du 28 septembre 1958, c'était terminé, je n'ai jamais eu de compte. À plus forte raison en Hollande, je ne connais même pas la Hollande. Je n'y ai jamais été.
Si on est amené à vous le dire, c'est parce que le CMRM et le président de la République a eu arrêté la décision suivante. Tous ceux qui ont leur nom sur cette liste, soit ils sortaient l'argent qui se trouve à ces comptes-là, ou ils restaient définitivement en prison. Donc c'est la raison pour laquelle nous faisons le devoir de faire état de cela.
Jamais été en Suisse, je pense.
C'est rue de Hollande.
Ah, rue de Hollande.
J'ai été en Suisse en 62 seulement, quand nous avons été pour signer un accord de coopération. Je ne connais pas la suite et je n'ai aucun compte en Suisse. Si jamais cela pouvait être prouvé, je dis. Mais je ne demande pas de grâce. Mais si cela n'est pas, je vous demande de me croire et de me libérer. Parce que je ne peux pas, je ne peux en aucun cas, en tant qu'ancien gouverneur de la banque, qui a rédigé les textes, les violer par malhonnêteté. Et j'ai trop de charges de famille pour faire cela. Et à mon âge, ce n'est pas pour garder de l'argent.
Une autre question. Après le décès de l'ancien président, il y a eu quelques activités pour sa succession. Le bureau politique national s'était réuni et un candidat avait été désigné. En l'occurrence, le feu Lancanabiaboudi. Et l'on se préparait à se réunir en comité central le 3 avril quand il y a eu l'action de l'armée. Qu'est-ce que vous savez de cette situation? Parce que d'autres personnes font état des esprits qui voulaient un peu décharger le président de la République, que le président de la République ne soit plus. n'est plus tant de pouvoir comme l'était au temps de Sékou Touré, mais on avait envisagé qu'il y ait un vice-président, un premier ministre chef de gouvernement et un secrétaire général du parti. Alors, qu'est-ce que vous en savez là-dessus?
Eh bien, vous puisez vos informations avec des responsables que je ne connais pas, mais moi.
Avec le cours de Tunis.
Bon, je dois vous dire moi. J'ai toutes les raisons d'aspirer à cette époque à la première magistrature. J'en ai aucune honte. Puisque sur le plan de la CNC, je le mérite. Et à tous les congrès, j'ai été reconduit à la deuxième place après le Premier ministre. Mais nous savons que dans la situation que nous traversions, il n'est pas du tout indiqué qu'après avoir nous-mêmes en congrès en 1972, à la toute première réunion du bureau politique, donne au chef de l'État le pouvoir de créer un poste de Premier ministre. Et c'est là que le camarade Lancelot Béavovi a été désigné. Et ce n'est pas moi qui le contesterai. Parce que il avait des qualités certaines, mais ce qui s'est passé véritablement, c'est que après le décès de l'ancien président, mon souci personnel était de faire respecter la Constitution. Parce que c'est moi qui ai rédigé la Constitution. Je me sens responsable du respect de la Constitution. Je l'ai rédigée, il y a eu peu de modifications. Et nous l'avons écrit en cas de décès ou de disparition du chef de l'État, le gouvernement restait en place jusqu'aux prochaines élections, après 45 jours. C'est moi qui l'ai rédigé. Donc, c'est moi qui ai proposé que la Constitution soit respectée et qu'on ajoute l'ancien Béavovi est chef du gouvernement, puisque le gouvernement reste en place. Il reste Premier ministre. Mais personne d'autre ne changeait de portefeuille. Et nous ne créions pas auprès de lui un poste de Premier ministre. Pourquoi? Parce que nous avons dit, la Constitution dit que le gouvernement reste en place jusqu'à la fin des 45 jours. Donc, n'ont pas de modification apportée au gouvernement qui existait. Et nous avons donc décidé, Lansana Béavogui, Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons fait le communiqué même avant que n'arrivent les camarades qui avaient accompagné l'ancien chef de l'État malade. Il y avait au moins trois membres du bureau politique qui étaient absents. Mais nous avons dit, puisque la Constitution dit qu'après tant, après la constatation de la disparition, immédiatement, il fallait déclarer que le gouvernement est responsable maintenant de la situation pour préparer les élections dans les 45 jours. Et après les 45 jours, après les élections, si maintenant le président élu devait constituer le gouvernement, c'était à lui à créer les postes dont vous parlez, mais on ne peut pas parler de ces postes-là avant les élections, selon nous. C'est pourquoi il n'y a eu aucune discussion à cet égard.
En 1960, il y a eu une conférence à Cancan autour du plan triennal, je crois, du premier plan triennal, à laquelle assistait certains monsieur Beclerc, qui était un planificateur connu à l'époque. Alors, il aurait fait un projet de plan pour l'avenir. Si vous avez suivi là, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce plan a été fondamentalement rejeté? Et quelles ont été les raisons?
Vous savez, après la création de la monnaie, le gouvernement a modifié un peu le gouvernement. Et il a créé un poste de ministère du plan. Mfamara a été désigné ministre du plan. Et le camarade Defranc, qui avait aussi des grandes idées nobles, a demandé au chef de l'État de lui permettre de se faire assister par des spécialistes de la planification. Nous avons fait appel d'ailleurs à des hommes d'un niveau extrêmement élevé. Il y avait Bethlehem dont vous parlez, qui est marxiste. Vous avez René Dumont qui a fait ce livre fameux dont on parle beaucoup, L'Afrique est mal partie. Et après quelques mois de travail, le camarade Oufamara a présenté un projet. L'ancien chef de l'État a soupçonné que ce projet était d'inspiration de Bethlehem, qui était marxiste et qui ne s'en cachait pas. Mais nous disons bien que pour nous, le plan n'avait rien de marxiste. Puisque c'était un plan intérimaire de 3 ans, alors que nos premiers plans, nous voulions leur donner une durée de 7 ans. Mais que pour une période donnée, il fallait absolument faire un plan intérimaire. C'est-à-dire qu'il devait ramasser les problèmes les plus urgents qui se posent et qu'il devait les résoudre dans un temps déterminé. C'est ce qu'on appelait alors le plan Triana Bethlehem. Dans le rapport peut-être qu'il a inspiré, voulait d'abord qu'on commence par briser les anciennes structures du régime colonial. C'était le fondement de ce plan, qu'il fallait mettre en place les infrastructures administratives, puisqu'il y a des régions qui n'avaient pas d'infrastructures. Donc briser les structures de l'ancien régime colonial, c'est d'abord refondre tous les textes et mettre en place de nouvelles structures, et à partir de ce plan, faire des créations. Voilà ce qu'il y avait dans ce plan. Mais le chef de l'État, évidemment, s'était énervé pendant la discussion. Et il avait peut-être eu d'autres informations, mais cela ne résultait pas du tout des textes du plan. Il a dit que la Guinée n'est pas communiste et que jamais la Guinée ne sera communiste, il l'a déclaré. Et que nous sommes, défenseurs de la situation des pays en développement, nous ne voulons pas nous couper des autres pays en nous targuant d'être communistes, premièrement. Deuxièmement, nous sommes des musulmans convaincus, des croyants. Et ce jour-là, il a pris à partie notre camarade de faiblesse de s'être laissé dominer par les planificateurs considérés comme des savants. Voilà vraiment ce qui s'est passé en résumé au cours de cette conférence.
Donc, il n'y a eu aucune pression sur le chef de l'État de Fès?
Non. Aucune pression. De quelle pression, par exemple?
De certains termes.
Un tiers.
De certains Guinéens, à l'époque, dans le deuxième, dans le gouvernement.
Non.
Une pression.
Vous savez, nous, à l'époque, nous étions jeunes. Et moi, je me targuais de communiste et je n'en ai pas honte.
Non.
Parce que ça correspondait à une époque.
Mais de l'autre côté, maintenant, qu'il y avait certains qui n'étaient pas pour le plan parce qu'il était un peu communisant.
Non.
Certains qui étaient d'un autre bord, on fait pression.
Non, c'est dans les archives, vous pourrez voir le plan. C'était un plan intérimaire. Ouais. Ce n'était pas un plan véritablement définitif.
Ça, j'ai une dernière question. C'est à savoir pourquoi le délai de 45 jours n'a pas été respecté.
Il faut poser la question à ceux qui ont fait le coup d'état.
Non, parce qu'on a fait un discours d'investiture pour le 3 avril.
Hein?
Un discours d'investiture de Jules Lassalle à Bernoulli comme président de la République.
Ah, peut-être il préparait son discours, mais ce qui était certain, nous voulions peut-être abréger le délai. C'est-à-dire qu'en réunissant le comité central, en réunissant l'Assemblée nationale populaire, il y avait dans la Constitution ce qu'on appelait l'Assemblée suprême. Alors donc, l'Assemblée suprême pouvait prendre n'importe quelle disposition à n'importe quel moment quand les événements l'exigent. Alors donc nous avons décidé, après avoir investi le camarade Béaoui, ne laissons plus les bruits qui courent en disant que nous ne nous entendons pas. Parce que nous avons entendu ces bruits. Et vraiment, ça nous faisait, c'était ridicule pour nous. Parce que s'entendre ou ne pas s'entendre, l'essentiel était de sortir une décision. Elle était sortie. Donc nous avons dit, donnons maintenant à cette décision sa valeur législative pleine et entière, en convoquant maintenant toutes les institutions réunies, ce qui est prévu dans la Constitution. Et si les institutions approuvent la désignation du camarade Lansana Béaoui, donc les institutions sont en mesure de dire, nous allons maintenant proclamer Lansana Béaoui président de la République, et cela coupe court et aux élections et à d'autres ambitions. Voilà ce qui a motivé notre prise de décision.
Déjà prévu, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Vous n'avez rien de spécial à déclarer
quelque chose. Contre-proposition.
Ah.
Il y avait des contre-propositions à ce que vous aviez arrêté à la réunion du BPM.
Hein?
Non.
Oui, peut-être.
Après connaissance.
Oui, c'est possible.
Des gens qui, d'apparence, étaient d'accord avec vous, quand vous êtes en réunion, mais quand vous sortez des réunions, qui entreprenaient d'autres démarches.
J'étais bien préparé.
Parce qu'il disait un partage du pouvoir, parce qu'on pensait que le secrétaire général du parti, président de la République, chef du gouvernement, était un peu une concentration, une forme de concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme. Et ceci partageait une décentralisation.
Oui, mais voilà ce qui s'est vraiment passé. En ce qui concerne ce problème de décentralisation, lorsqu'on a investi le camarade Béaoui comme chef de gouvernement intérimaire, nous avons dit, nous ne désignons pas le premier ministre. Il vaut mieux supprimer le poste. Nous supprimons le poste et en ce moment-là, nous nous trouvons dans la même situation qu'au Sénégal, que le Cameroun. On a dit, un régime bicéphale en Afrique ne se justifie pas. Voilà l'argument qui a été avancé. Mais d'autres, peut-être sous-estimaient le président élu en disant qu'il n'avait pas, évidemment, toute l'énergie et toute la compétence, l'expérience. Et que par conséquent, il était bon de lui trouver quelqu'un qui l'assisterait. Évidemment, il faut faire la part des choses. Il y avait la presse, il y avait la radio Paris qui disait beaucoup de choses de chacun de nous. On disait même que j'étais candidat. Je l'ai lu dans le journal
de
du Parti Socialiste.